France Culture. France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmont.
Guerre, orientation scolaire, homicide, viol, contrôle aux faciès, conditions carcérales, harcèlement, génocide, insultes, attentats. Quoi de commun entre toutes ces réalités sociales ? La violence. Un seul et même mot peut-il saisir toutes ces réalités sociales ? L'anthropologue et sociologue Didier Fassin en fait le pari, non pas pour proposer une théorie générale de la violence, mais plutôt pour s'en saisir comme d'un prisme. Il est cette semaine l'invité de la suite dans les idées. Violence cette fois au pluriel, c'est le titre du spectacle que Léa Drouet proposera au Théâtre de la Bastille à Paris entre le 13 et le 18 octobre prochain. Elle nous rejoindra pour dialoguer avec Didier Fassin en deuxième partie d'émission. Une suite dans les idées aujourd'hui assez cohérente dans le choix de ces thématiques. Ça arrive, puisque la rubrique actualité sera consacrée à la dernière livraison de la revue Gradiva, publiée par le musée du Quai Branly. Le numéro 39 de cette revue est consacré aux recherches artistiques sur les restes humains. On en parle dans la dernière partie, la rubrique actualité de cette émission. Bonjour Didier Fassin.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, vous êtes anthropologue, professeur, notamment professeur au Collège de France, et vous publiez justement un livre qui est assez largement tiré d'un enseignement que vous avez dispensé l'an dernier dans cette institution, le Collège de France, même si ça constitue désormais un livre qui n'est pas un cours, Leçon de ténèbres, ce que la violence dit du monde. Un livre qui s'enracine aussi, évidemment, dans une actualité, dans une situation. Au fond, il aurait pu s'enraciner dans n'importe quelle actualité de l'histoire de l'humanité, tant la violence, relevez-vous, a toujours été présente. Mais cette présence de la violence, qui est générale, généralisée, en revanche, elle contraste avec l'absence de cette même violence dans les disciplines qui vous sont chères, la sociologie d'un côté, l'anthropologie de l'autre, puisque vous partez au fond de ce constat qui est que il est peu question de violence, au moins dans le premier siècle de ces disciplines, c'est-à-dire en gros des années 1880, pour aller vite, jusqu'aux années 1970. Vous en donnez quelques indices, dans les traités, dans les encyclopédies, etc. On trouve finalement assez peu de traces de violence. Comment on peut expliquer ça ?
Alors effectivement, c'est un paradoxe qui m'a moi-même surpris, puisque je travaille sur la violence déjà depuis assez longtemps, pas forcément de manière centrale. Mais ce qui m'a effectivement surpris, c'est en cherchant à remonter dans l'histoire de ces deux disciplines. Et d'ailleurs, on pourrait en ajouter une troisième, qui est d'ailleurs paradoxalement, là aussi, l'histoire. Et dans une intervention que j'avais demandée à Stéphane Audouin-Rouzeau, il faisait le même constat de cette absence de la violence en tant que telle, je dirais, dans les travaux des historiens. Lui qui est un spécialiste de la Grande Guerre, comme on le sait. Ce qui m'a frappé, c'est que, y compris, vous le mentionniez dans des encyclopédies, des dictionnaires de ces disciplines, en anglais, en français, en allemand, des ouvrages de plusieurs volumes, 15 volumes parfois, il n'y avait pas même une entrée au mot violence.
Là où il y avait 1000 articles dans ces ouvrages.
Voilà, sur la parenté, par exemple, il y en avait beaucoup, et en anthropologie, sur la norme, en sociologie, et aucune sur la violence. Alors, les raisons de cette absence, qu'on pourra d'ailleurs éventuellement relativiser un tout petit peu, parce qu'il y a quand même quelques traces qu'on arrive à repérer ici et là. Les raisons, je crois, sont de plusieurs ordres. La première est une raison d'ordre épistémologique, qui est que la sociologie comme l'anthropologie, à travers ses grandes théories fonctionnalistes, culturalistes, structuralistes, ces deux disciplines se sont beaucoup attachées à comprendre ce qui fait l'unité, ce qui fait la cohésion.
L'intégration sociale.
Exactement. Et alors, que ce soit à travers les institutions, à travers les fonctions qu'elles ont pour maintenir le lien entre les individus, que ce soit les structures qui donnent une certaine certains fondements aux sociétés, que ce soit la culture qui est censée unir les individus d'un groupe, eh bien, toutes ces théories avaient comme point commun de chercher ce qui faisait l'unité. Et du coup, la violence, en tant qu'elle est une source et même une expression du désordre, était en quelque sorte marginale. Elle ne pouvait être qu'une exception dans ce cadre. Il y a une deuxième raison qui est d'ordre, je dirais, plus théorique en lien avec les grandes théories qui ont traversé les sciences sociales depuis leur origine. C'est notamment la célèbre formule de Max Weber sur l'État comme détenteur du monopole de la violence légitime, avec donc cette idée qu'il existait dans les sociétés modernes, contemporaines, une institution, l'État, qui elle avait droit d'utiliser la violence, mais du coup, elle n'était plus légitime dans la société. Et du reste, ça n'est pas complètement faux, bien sûr, puisque on sait que la criminalité a diminué au fil des siècles. Bien sûr, il y avait toujours dans cette théorie sociologique, il y avait le travail remarquable de Norbert Elias sur la civilisation des mœurs, qui montrait que il y avait eu un contrôle progressif, au moins depuis le Moyen-Âge et au moins dans les sociétés occidentales, des débordements émotionnels, affectifs, en matière de sexualité, en matière d'alimentation et bien sûr donc en matière d'agressivité. Donc il y avait ces différents éléments, et même lorsque quelqu'un comme Georg Simmel s'attache à comprendre dans un livre qui s'appelle Le Conflit, qui était un peu oublié, à comprendre la violence, il la reprend précisément, non pas comme ce qui diviserait, mais au contraire, ce qui permettrait de rétablir du lien entre des individus, fussent-ils des ennemis. Donc on a ce deuxième élément, et puis je dois dire que j'ai trouvé très intéressante l'observation qu'a faite le philosophe jamaïcain Charles Mills, qui remarque... Alors, il parle surtout, lui, de la philosophie politique, de la théorie politique, en rappelant quelle est la composition sociale de ces disciplines. Qui sont-ils? Quelle sociographie, au fond, pourrait-on faire des sociologues et des anthropologues pour appliquer son raisonnement à ce qui nous intéresse? Et il dit, le fait que ce soit des hommes blancs, des classes moyennes et supérieures, dans les pays occidentaux, leur a permis de voir certaines choses et de ne pas en voir d'autres. Et il disait, d'ailleurs on sait que ce n'est pas simplement une hypothèse, c'est que à partir du moment où des femmes, des minorités, des colonisés ont pu avoir un espace d'écriture, la violence a émergé comme quelque chose d'important.
Le point de vue était situé depuis d'autres espaces de la société, tout simplement. Didier Fassin, ce livre, Leçon de ténèbres, est un livre de lecture. Vous y citez nombre de travaux qui sont importants pour vous et vous les mettez en relation. Et puis, c'est un livre de relecture aussi, parce que c'est un livre de relecture de vos propres travaux. Vous le disiez tout à l'heure, au fond, vous vous êtes rendu compte à quel point la violence, si elle n'était pas centrale, était malgré tout, d'une certaine façon, au centre d'un certain nombre des enquêtes que vous avez menées, aussi diverses soient-elles, quels que soient les contextes politiques, géographiques, quelles que soient les méthodes que vous avez employées et, ou les moments dans votre parcours.
Alors effectivement, j'essaie toujours, dans mon cours au Collège de France, de relier les sujets sur lesquels je travaille à mes propres recherches. et notamment parce que ça permet d'introduire une dimension empirique, ethnographique même, voire parfois historique, sur les sujets que je traitais là. En l'occurrence, effectivement, c'est toujours un travail de reconstitution, de recomposition d'un itinéraire, mais je me rendais compte que depuis mes recherches au Sénégal, jusqu'à celle en Afrique du Sud, en passant par les travaux que j'ai faits dans les Andes, en Équateur, et puis bien sûr plus récemment sur la police, sur la justice, sur la prison. La violence était une sorte de fil rouge que j'avais tiré quelquefois, mais que, pour lequel je n'avais pas fait ce travail, disons plus systématique, d'essayer d'appréhender à la fois ce qu'elle nous dit du monde et ce que le monde en fait de cette violence.
Alors le livre est composé de deux parties. Dans une première partie, vous vous interrogez, vous avez commencé de le faire là, sur les raisons qui font que la violence a été absente de ces disciplines, mais aussi sur la manière dont la violence était appréhendée dans d'autres types de productions culturelles, et ce depuis toujours, dans la littérature, dans la mythologie, et vous y consacrez des chapitres très très intéressants. Et puis la seconde partie du livre, qui s'appelle « Faire », la première s'appelle « Savoir », vous permet d'essayer de penser de manière transversale ces situations extraordinairement disparates. Je fais exprès de commencer l'émission en citant des choses qui semblent n'avoir que peu de liens. Quoi de commun entre ce contrôle au faciès sur lequel vous avez été amené à travailler en observant l'activité de la BAC, par exemple, et puis le génocide en cours à Gaza que vous tentez de saisir à travers les témoignages ou à travers le travail des journalistes ou à travers les contributions des chercheurs qui tentent également de le penser. Vous essayez de maintenir ensemble tous ces objets, tout en résistant à la tentation peut-être ou à l'injonction qu'il y aurait à fournir une définition de la violence.
Alors effectivement, la question de la définition est une question difficile et je crois que c'est une raison légitime de la part des sociologues et plus particulièrement d'ailleurs des anthropologues de s'être tenu à distance de la violence d'un point de vue historique, puisqu'à partir des années 80 il y a une multiplication de travaux tout à fait remarquables pour certains d'entre eux sur cette question. Difficulté qui est que bien sûr comme le disent certains, chacun d'entre nous sait ce que c'est que la violence, ou croit savoir. Dès lors qu'on commence à essayer de la délimiter, de la définir, eh bien les choses sont beaucoup plus difficiles. D'abord parce que il peut y avoir d'un point de vue ou d'un autre, y compris par exemple pour un anthropologue travaillant dans une société différente de la sienne ou dans un groupe social différent du sien, la découverte que ce que lui ou elle voit comme violence, eh bien, n'est pas représenté comme tel par les agents sociaux. Donc il y a cette difficulté, et puis ensuite, les tentatives de définition qui ont été données, notamment par des anthropologues, varient considérablement. C'est-à-dire que au départ, il y a une espèce de noyau qui est l'imposition de la force sur des corps. Donc la dimension physique est centrale. C'est d'ailleurs ce qu'on trouve dans l'étymologie grecque et latine du mot. Mais dès que les anthropologues cherchent à comprendre un peu mieux les choses, ils se posent la question de « mais est-ce que c'est uniquement physique, est-ce que ça peut pas être aussi psychique, moral, etc. Est-ce que c'est uniquement des êtres humains entre eux? Est-ce que ça peut pas être aussi des animaux, voire des plantes, voire la planète? Et on sait qu'aujourd'hui, ce sont des vraies questions qui se sont posées. Les sociologues, eux, ont eu une interrogation un petit peu différente, mais complémentaire, en élargissant le champ de la violence. Les travaux de Johan Galtung sur la violence structurelle qui montrent comment les inégalités au sens de l'incapacité pour des individus d'être en mesure de se réaliser comme ils devraient le pouvoir le faire dans leur société Cette violence structurelle, donc, par les inégalités, produit un nombre de morts qui est plus considérable que la violence guerrière, par exemple. Et puis, il y a la violence symbolique, à laquelle on attache, bien sûr, le nom de Pierre Bourdieu, qui est d'un tout autre ordre, mais qui correspond à la manière dont, dans ces termes, les dominants arrivent à imposer leur domination sur les dominés en la présentant comme légitime à travers des effets de sens, des effets de langage, et qui amène à ce qu'il y ait une sorte de consensus autour de cela. Il l'a étudié notamment à travers l'école, mais à travers la domination masculine également.
Arrêtons-nous un instant. Ça a été reproché à Pierre Bourdieu et à ceux qui l'ont suivi dans l'utilisation de ce concept de violence symbolique. Il leur a été reproché de diluer ce concept de violence, de parler à tout bout de champ de violence pour des choses qui ne sont pas de la véritable violence au sens physique du terme, et du coup de perdre en capacité d'analyse. C'est pas du tout une critique que vous faites. Vous pensez au contraire que c'est assez heuristique d'utiliser toutes ces définitions de la violence pour essayer de trouver au fond ce qu'il y a d'irréductible, une sorte de plus petit dénominateur commun à la violence.
Alors, je n'écarte pas les critiques qui ont été faites, à mon avis à juste titre, à la fois à la violence structurelle. Johann Galtung et Paul Farmer l'a beaucoup développé ensuite, ou bien violence symbolique telle que développée par notamment Pierre Bourdieu, et notamment des historiennes et des sociologues féministes ou travaillant sur les questions de genre ont critiqué Pierre Bourdieu dans
vous citez longuement Michel Perrault, sa lecture de la domination masculine.
Absolument.
Qui est très
absolument
critique et très intéressante.
Très, très critique et très justifiée, de mon point de vue. Mais au fond, si on ajoute à notre compréhension habituelle de la violence comme violence physique, comme violence morale, à travers les humiliations, les insultes, les manières de rapetisser les personnes, en y ajoutant donc la violence structurelle et la violence symbolique, on se rend compte qu'au fond, il reste peut-être deux éléments qui sont communs à toutes ces formes. C'est d'une part l'imposition d'une souffrance. Et cette souffrance, elle peut être bien sûr physique, mais elle peut être morale, elle peut être aussi dans le fait de ne pas pouvoir se réaliser, ou bien de se voir imposer la légitimité de la condition dans laquelle on se trouve. Donc il y a ce premier élément de souffrance, et il y a un deuxième qui est la dimension corporelle. Alors bien sûr, dans le cas physique, c'est évident, mais dans le cas structurel, évidemment, je le disais tout à l'heure, la mortalité par cette violence structurelle est bien plus grande que la mortalité par violence physique classique. Et elle s'exerce dans les corps, dans la production de maladies, de dégradation des physiques. Et puis, bien entendu, dans le cas de la violence symbolique aussi, il y a toute une série de signes corporels de cette difficulté à s'exprimer, à trouver sa place dans la société.
Ou des conséquences psychiques très
absolument.
Très
et donc, il y a quand même quelque chose qui est peut-être ce noyau dur en quelque sorte de la souffrance et de la dimension corporelle.
Avant d'en venir à ce qui constitue la deuxième partie du livre, à se faire de la violence à travers un certain nombre d'actes, de manière de la saisir. Juste quelques mots, peut-être, Didier Fassin, sur le lien entre violence et origine, parce que vous refusez de choisir, au fond, entre la violence des origines et les origines de la violence. C'est une histoire de poule et d'œuf, au fond, et ça vous semble pas nécessairement la meilleure façon d'analyser les choses. En revanche, c'est intéressant de revenir sur toute la littérature qui a pensé la violence de cette manière-là. Soit que l'origine de tout est violente, soit que les origines de la violence, on essaye de les trouver le plus loin possible, au fond, dans l'histoire de l'humanité, voire de la planète, disiez-vous.
Alors effectivement, il m'a paru important de comprendre les origines de la violence telle que elle, elle apparaît dans des récits fondateurs, dans des mythes, voire dans des expressions littéraires, par exemple au théâtre en Grèce et à Rome. Et donc de voir comment elle est omniprésente, et alors une violence qui est extraordinaire du point de vue quand on regarde la théogonie d'Hésiode pour les histoires des dieux, ou bien qu'on aille du côté de l'Orestie pour les relations entre les hommes et les femmes, on voit qu'on est dans des formes qui sont au-delà même de ce qu'on pourrait appeler violence, tant elles sont
exacerbées,
extrêmes. Oui. Donc il y a cette présence et avec tout un débat qu'il y a eu pendant très longtemps chez les spécialistes, historiens ou anthropologues, de la relation entre ces mythes, les rites auxquels ils donnent lieu, et la société, la manière dont la société se conçoit. Mais ce qui m'a plus intéressé, c'est la manière dont les mythes et les récits fondateurs pouvaient à un moment donné être manipulés, instrumentalisés au présent. C'est-à-dire non pas de se pencher sur la situation en Grèce antique, sur laquelle on a beaucoup de doutes, mais que se passe-t-il au présent ? J'en ai pris pour la France deux exemples, qui est le baptême de Clovis, qui est un événement très insignifiant du point de vue des historiens, mais qui a pris une place très importante dans la constitution de la nation française, d'abord les Francs, et puis l'articulation entre la nation et l'Église. Et l'autre exemple, c'est bien sûr la bataille de Poitiers de Charles Martel, Charles Martel est victorieux en 732, et qui est enseigné dans toutes les écoles, en tout cas qui l'était jusqu'à il y a très peu de temps, si ça n'a pas changé. Peut-être pas changé.
Et d'ailleurs, notez-vous, les Anglais appellent ça la bataille de Tours, parce qu'on ne sait pas très bien où ça s'est passé.
On ne sait pas très bien où ça s'est passé, et en tout cas, on sait que ce n'était pas du tout une grande bataille, que c'était un combat
parmi
beaucoup d'autres, en rapport avec une razzia que faisaient des Arabes qui remontaient vers le centre de la France.
Mais les barbares n'étaient pas forcément ceux qu'on croyait qu'ils étaient.
Absolument, puisque du point de vue de l'Église, ce que redoutaient le clergé, c'était bien les Charles Martel et autres petits chefs, ou plus ou moins grands chefs francs, et non pas
les Omeyyades.
Les Omeyyades, même si ça a pu être le cas ensuite. Donc, mais on voit bien que ces deux éléments-là ont servi à nourrir, dans le premier cas, un sentiment nationaliste, dans le deuxième cas, aussi une hostilité à l'égard des Arabes et des musulmans. Et aujourd'hui...
Et ça continue d'infuser, en fait.
Et aujourd'hui, c'est générations identitaires qui met des grands signes sur la mosquée de Poitiers, disant... Gaulois, rappelle-toi, alors en confondant Gaulois et Francs au passage, mais bon. Et puis c'est les policiers avec lesquels j'ai travaillé dans la brigade anticriminalité et qui portaient sur leur t-shirt noir avec plusieurs autres signes de leur nationalisme identitaire, les chiffres 732 qui rappelaient justement cette date. Je prends aussi l'exemple parce qu'il est beaucoup plus actuel et plus tragique, bien entendu, de la convocation de textes de la Bible, et notamment du Deutéronome et du livre de Josué, dans lesquels Dieu appelle à l'extermination par les Juifs les Israélites des ennemis, et qui est aujourd'hui utilisé par des grands responsables israéliens, aussi bien politiques que militaires, par des journalistes également en Israël, pour justifier à la fois justifier, mais aussi rappeler cette mémoire. en sachant que d'ailleurs, elle ne remonte pas, enfin, cette utilisation ne remonte pas au 7 octobre 2023, mais avait été utilisée par les kahanistes depuis plusieurs décennies. Donc on voit comment les origines peuvent être manipulées. Alors, ensuite, j'ai essayé aussi d'inverser, comme vous le disiez, les choses en m'interrogeant sur, au fond, comment est-ce que des grands théoriciens ont réfléchi à mais d'où vient cette violence et avec deux grands types de modèles, des modèles universalistes et des modèles qui étaient plus inscrits dans le monde social et politique. Du côté des thèses universalistes, il y a de façon assez surprenante une très forte convergence entre la psychanalyse Freud et l'éthologie Konrad Lorenz, qui utilise l'un et l'autre, alors que l'un travaille sur le psychisme et l'autre travaille sur les animaux, utilise les mots pulsion, instinct pour montrer que nous sommes tous cette violence.
Vous faites une lecture croisée passionnante de Freud et de Lorenz de ce point de vue. Je voudrais qu'on en vienne quand même rapidement, parce que l'heure tourne à ce que vous abordez dans la deuxième partie du livre, à ces cinq verbes qui vous permettent de donner à penser la violence: écrire, représenter, attester, qualifier, refuser. Alors, écrire la violence, dites-vous, c'est compliqué. Ça pose des questions morales, ça pose des questions éthiques. Quand on est chercheur en sciences sociales, quand on est journaliste, quand on est écrivain, il y a une forme de réflexivité nécessaire, peut-être plus que sur d'autres sujets, quand on est confronté à la violence. Et pour penser cette question, vous reprenez un certain nombre de choses que vous aviez déjà travaillées autour de parallèles et de comparaisons entre l'écriture des sciences sociales et l'écriture de fiction, entre l'écriture de fiction littéraire et l'écriture de fiction pour les séries télévisées, par exemple.
Alors, en effet, l'écriture pose un certain nombre de problèmes, mais notamment éthiques, que vous évoquiez, avec cette tension entre, il faut bien parler de cette, de, en tout cas depuis les années 80, la question se pose vraiment de cette manière, il faut bien parler de la violence, c'est important pour faire entendre la voix des victimes, mais en même temps, il s'agit de les respecter, de ne pas les mettre plus en danger, de ne pas faire rejouer en quelque sorte la scène violente. Donc il y a cette difficulté. Et alors, effectivement, le problème se pose différemment pour des auteurs et autrices de fiction, notamment de romans, mais ça peut être aussi de films, et pour des chercheurs en sciences sociales, anthropologues, sociologues en particulier. Ça se pose différemment parce que, sans m'en plaindre, mais que sociologues, anthropologues sont contraints par ce qu'ils pensent pouvoir dire de la violence telle qu'elle leur a été rapportée, telle qu'ils l'ont vue, telle qu'ils peuvent l'interpréter, mais sans pouvoir aller au-delà. Et donc, ils sont en quelque sorte tenus, si on veut bien accepter ce terme, par la réalité. Alors que les romanciers, romancières, les réalisateurs, réalisatrices peuvent se permettre une liberté par rapport à cela. Une liberté qui, bien sûr, peut s'éloigner de la réalité, mais en revanche, permet d'atteindre des niveaux de vérité que ne peuvent pas s'autoriser, sauf à titre d'hypothèse, ceux qui travaillent à partir d'ethnographie, par exemple. Alors, bien sûr, cette opposition-là est un petit peu schématique, mais je donne deux exemples en particulier d'ouvrages, celui de Han Kang, celui qui revient sur la prix Nobel de littérature de l'an dernier, sud-coréenne, qui revient sur des événements tragiques, une révolte réprimée très durement par le régime, et l'autre qui est de Adania Sibley, qui est qui s'appelle un détail mineur et qui revient sur le viol par des Israéliens, l'armée israélienne au lendemain de la création de l'État d'Israël et le viol d'une adolescente. Et dans les deux cas, on voit le travail extrêmement fin, y compris un travail grammatical sur quelle personne utilise-t-on, la première personne du singulier, la deuxième, la troisième, etc. Comment est-ce qu'on peut soit mettre en avant le pathos ou au contraire l'effacer complètement. Donc il y a tout un travail à un certain degré, bien sûr, les anthropologues et sociologues peuvent faire, mais avec beaucoup de limites.
Alors, on n'aura pas le temps d'aborder les cinq verbes qui constituent cette deuxième partie. Il faut absolument lire ces chapitres qui sont passionnants, mais j'aimerais quand même, Didier Fassin, qu'on s'arrête sur le deuxième, représenter, parce que on écrit, mais voilà, on écrit pour donner à voir aussi. Représenter la violence, on embarque toujours ces questions éthiques, mais on embarque aussi des questions épistémologiques qui sont complexes et qui sont variables selon les métiers qu'on exerce, parce que plusieurs métiers prennent en charge cette représentation de la violence. C'est un chapitre dans lequel particulièrement, c'est un peu le cas de tous les chapitres du livre, parce que cette situation contemporaine vous sert de fil rouge, mais c'est un chapitre dans lequel vous accordez une place importante à la manière dont est donné à voir, ou pas, ce qui se passe aujourd'hui à Gaza en particulier.
Alors effectivement, sur la représentation, je me focalise sur deux types de violences, la violence coloniale et la violence guerrière. Et donc la violence guerrière, qui a été étudiée notamment à propos de la Première Guerre mondiale par George Moss, qui parle de brutalisation de la société allemande, j'ai essayé de regarder comment elle fonctionnait aujourd'hui autour des événements qui se sont produits depuis le 7 octobre 2023. Et ce qui est assez remarquable, c'est que du point de vue israélien, et qui a été repris très largement dans les médias du monde entier, il y a un premier temps qui est un temps de monstration, d'exposition de la violence et des violences commises par le Hamas et le djihad islamique en Israël.
Le 7 octobre.
Le 7 octobre 2023, avec bien sûr... Au fil du temps, un certain nombre de faits qui ont été démentis par des travaux de journalistes israéliens et internationaux, mais il y a ce temps, disons, de production, et ça c'est très connu dans la littérature, c'est-à-dire que il est, si on veut provoquer à la fois l'effroi et l'indignation, il faut mettre ce qui s'appelle en anglais atrocity propaganda, la propagande par les atrocités. Ce qui est assez remarquable dans le cas de la suite après le 7 octobre, c'est qu'on retrouve cette exposition, cette fois dans les réseaux sociaux, dans la circulation par les soldats israéliens eux-mêmes, des atrocités qu'ils commettent. Et là, on voit que ça a une toute autre fonction pour la société israélienne, et sans que ce soit d'ailleurs empêché par les autorités israéliennes, une toute autre fonction qui est à la fois de produire l'humiliation de l'ennemi, et en même temps, une forme d'héroïsme dans la réalisation de la vengeance pour ce qui a été commis avant. Et donc, on voit comment les atrocités d'un côté ou de l'autre jouent un rôle très très important dans la mise en spectacle de cette violence. Et alors, par contraste, j'ai étudié de très près à la fois la littérature et la filmographie, certes assez limitée et parfois assez amateur, autour du côté palestinien. Et ce qui est frappant à l'inverse, c'est une absence totale de cette expression de la violence, de l'atrocité, de la jouissance de la souffrance de l'autre, à travers des des récits, des poèmes, des films dans lesquels ne s'exprime ni haine, ni ressentiment, mais le deuil, la souffrance, la perte. Et donc, on voit là comment il y a, en fonction des, histoires, en fonction des situations, des manières très très différentes de représenter.
On continue de parler de violence au singulier et au pluriel avec la metteuse en scène Léa Drouet qui nous rejoint pour la deuxième partie de l'émission après un extrait d'un nouvel album qui vient de sortir, de Big Thief, Los Angeles.
France Culture, la suite dans les idées, Sylvain Bourmont.
Ce que la violence dit du monde, c'est le sous-titre du livre dont nous parlons aujourd'hui de Didier Fassin, Leçon de ténèbres et violence au pluriel. C'est le titre de votre spectacle, Léa Drouet, celui que vous allez présenter du 13 au 18 octobre sur la scène du Théâtre de la Bastille à Paris. Un dispositif scénique pour, en quelque sorte, proposer une archéologie des violences.
Le dispositif est plutôt celui d'une maquette, mais aussi d'un bac à sable qui fait penser un petit peu au bac à sable dans lequel les enfants jouent, parce qu'il y avait vraiment la question d'élaborer à partir des histoires de violence, ou en tout cas à partir de ces histoires qui m'avaient fait violence au moment où je les avais reçues.
Oui, parce que ce sont des histoires qui vous concernent directement, qui sont des histoires diverses en fait.
Il y a deux histoires que j'articule l'une avec l'autre, que je mets un peu en résonance sans parler d'équivalence. Il y a l'histoire de ma grand-mère qui a fui la rafle du Veldiv et qui a été accompagnée d'un passeur qui est passé de zone occupée à zone libre pour ensuite être accueillie par des paysans pendant 2 ans dans une ferme. Et puis j'articule cette histoire avec celle de Maouda. Donc Maouda, c'est une petite fille kurde de 2 ans et demi. Qui a été tuée par un policier belge, parce que j'habite à Bruxelles, par un policier belge alors qu'elle était dans un camion avec ses parents et puis 25 autres personnes et qu'elle essayait de rejoindre l'Angleterre, qui a été tuée par une balle dans la tête par un policier belge qui a tiré sur la camionnette. Et ensuite, il y a une série, donc il y a cet événement de violence un peu spectaculaire, mais ensuite il y a une série de violences diverses qui sont moins spectaculaires, plus sourdes ou plus invisibles, qui sont celles, qui sont la violence administrative qu'a subi les parents puisqu'ils ont reçu l'ordre de quitter le territoire alors même que le corps de leur enfant était s'apprêtait à être enterré dans une fosse commune, la violence d'effacement puisque Maouda en fait elle a failli ne pas avoir de pierre tombale ni de nom inscrit sur cette pierre tombale et du coup voilà, on essaye de décrire un petit peu de décrire un petit peu ces violences dans un registre très factuel, très très descriptif. Et puis un des enjeux de la pièce c'était quoi les conditions sensibles en fait de l'approche de la violence, c'est-à-dire comment on s'approche, parce qu'on le sait, que en tout cas au spectacle on le sait, moi je pense que si on fait violence aux spectateuristes, c'est pas une condition pour recevoir des histoires de violence. Et du coup on a décidé de le faire avec une extrême douceur et une extrême délicatesse. À la fois dans le registre, dans la parole, dans la musique, mais aussi dans le fait que le texte, il est par moments proche entre la reconstitution un petit peu factuelle d'un événement, mais aussi d'un conte, puisqu'il y a plein de mots qui ont été effacés, comme par exemple, on ne dit pas le mot réfugié, on ne situe pas l'action quelque part, ou voilà, il y avait certaines modalités comme ça de conditions d'approche de ces histoires de violence.
Vous utilisiez, Léa Drouet, le verbe décrire, qui au fond recoupe les deux premiers verbes qu'on a passé en revue avec Didier Fassin, c'est-à-dire écrire et représenter. Au fond, décrire, c'est vraiment au croisement des deux. Et à vous entendre, on se dit que vous vous êtes posé ces questions éthiques que pointait Didier Fassin, et vous y avez proposé d'y répondre, vous disiez, par cette douceur qui rend possible la manière dont les spectateurs et les spectatrices vont recevoir votre travail sur la violence.
Oui, c'est ça. Il y avait deux choses. Au niveau de la douceur, il y avait à la fois la condition d'approche des histoires de violence, parce qu'en fait, on peut y être sensible, et puis on est entouré d'histoires de violence. Et puis je me suis aperçue que, en ce qui concerne Maouda, la façon dont j'avais reçu cette histoire, elle était très journalistique, c'est-à-dire très morcelée. Il n'y avait pas de continuité dans le récit, ce qui ne m'avait pas permis d'envisager totalement en fait la mesure, enfin de mesurer la violence qui s'était exercée sur Maouda et sa famille, mais aussi le fait que la violence parfois n'est pas spectaculaire, elle n'est pas irruptive, elle n'est pas forcément, elle se passe pas forcément de manière aiguë. Que parfois elle se passe tout en douceur. C'est-à-dire, ça m'a fait penser aussi un peu au démantèlement des camps de personnes réfugiées, qui se passe dans un calme. On avait vu comme ça des vidéos.
Oui, c'est pas toujours les bulldozers en fait. Parfois,
voilà, c'est pas toujours les bulldozers.
Mais c'est tout aussi violent.
Voilà, exactement. Et donc il y a quand même un état de presque de dissociation en fait, qui nous met dans un état un peu de coton. Quand on reçoit ces histoires de violence qu'on a cherché aussi par moment à retrouver, quoi.
Le point commun avec la réflexion de Didier Fassin, ce qui m'a donné l'envie de vous inviter aujourd'hui, Léa Drouet, c'est le parti pris qui consiste à traiter ensemble de violences qui peuvent sembler extraordinairement différentes.
Oui, il y avait vraiment l'envie, et je le répète, c'est pas de rendre les histoires équivalentes, mais il y avait l'histoire quand même de ces deux enfants qui ont essayé de traverser, enfin de se déplacer jusqu'à un autre endroit. Une qui a survécu, et voilà, je suis là pour le raconter. Et puis l'autre qui n'a malheureusement pas survécu. Mais dans les deux histoires, en fait, on écrit, enfin il y a une sorte de système de résonance qui fait que on perçoit l'enfant, on perçoit la mère de ses enfants, mais aussi il y a une histoire de mémoire et d'effacement, c'est-à-dire et qui est aussi une forme de violence. Ma grand-mère, quand elle a demandé aux enfants des fermiers qui l'avaient accueillie s'ils pouvaient être reconnus comme des justes, ouais, parce que il y avait quand même ce système qui était mis en place, la fille des paysans n'a pas voulu le faire, et donc l'histoire de ce qu'elle avait vécu a été comme ça. N'a pas pu être inscrit quelque part. Mahouda, c'est pire. Enfin, je veux dire, c'est pire. On va pas faire une. Mais en tout cas, elle a failli. Enfin, son nom n'a failli pas être inscrit sur une pierre tombale. Et ça me faisait vraiment penser à tous les fantômes de l'Europe, hein, en Méditerranée, dans la Manche. Enfin, tous ces corps de personnes en migration qui sont décédées et qui n'ont ni sépulture, ni on ne connaît leur nom, ni on peut prévenir leur famille. Il y avait ces histoires-là dans les deux, d'histoires d'effacement des personnes et des récits. Et des personnes qu'on met comme ça en dehors de l'humanité, en fait. Ils n'ont ni de temps, ni d'espace pour vivre, puisque on les accueille nulle part, mais en plus, la seule chose qui pourrait se dire qu'on est des humains à part entière, c'est qu'on a droit à un rite funéraire, et puis ça, ils en étaient privés. Du coup, la question de l'effacement était aussi très présente dans les deux histoires.
Didier Fassin.
Oui, je pense que l'histoire de Mahouda, que j'ai un petit peu connue puisqu'on m'avait demandé d'intervenir en tant qu'ami de la cour, illustre la violence des frontières, qui est une violence pas simplement physique des policiers ou des gendarmes qui tirent, comme dans son cas, mais aussi de la politique qui permet et qui autorise et qui même oblige en quelque sorte cette situation, ce que nous avons étudié dans l'exil toujours recommencé avec Anne-Claire de Fossé. Sur ce que vient de dire Léa Drouet, c'est sur le non-respect de la mort, c'est quelque chose qui est effectivement à la fois très très spécifique à des situations. Par exemple, à Briançon, il y a eu sur la douzaine de morts qui sont survenues lors de la traversée des Alpes, il y a eu des petits signes qui ont été installés en mémoire de ces personnes mortes, le maire de la ville a détruit ces petits monticules qui rappelaient cette histoire. Et puis on peut dire aussi, pour revenir sur ce dont nous parlions tout à l'heure, qu'aujourd'hui c'est aussi ce qui se passe à Gaza où les corps enfouis dans les décombres, enterrés dans des fosses communes, écrasés par les bulldozers, n'ont pas ce minimum de dignité qu'on doit encore accorder à quelqu'un quand il est mort.
Léa Drouet.
Oui, puis on parlait de Didier Fassin, parlait de violence symbolique. J'ai pas parlé des différentes versions qui étaient sorties après l'assassinat de Mahouda, puisqu'en fait, dans les rapports de police au départ, il y a eu des versions complètement folles qui ont été données aux médias et qui ont été relayées par les médias. Et la première version, c'est que les parents auraient utilisé le corps de leur enfant pour casser la vitre arrière de la voiture, pour jeter le corps de leur propre enfant sous les roues des voitures des policiers. Et ça, c'est vraiment tout un imaginaire raciste du barbare qui tue ses propres enfants, ou en tout cas qui n'a pas de lien affectif avec lui et qui, pour sa propre survie, va le sacrifier. Et ça, dans l'histoire de Mahouda, on retrouve vraiment à plein de niveaux. C'est aussi ces histoires de violence symbolique et d'imaginaire raciste, en fait, qui sont en jeu dans cette histoire, quoi.
La rumeur est une violence, Didier Fassin le rappelle dans son livre. Merci Léa Drouet. Ce spectacle, vous le présentez à Paris au Théâtre de la Bastille du 13 au 18 octobre. Et on trouve la référence du livre de Didier Fassin, Leçon de ténèbres, publié à La Découverte, sur la page de La Suite dans les idées.
France Culture, La Suite dans les idées, Sylvain Bourmont.
Une rubrique actualité qui reste dans la tonalité de cette émission, vraiment exactement. Avec vous, Lucia Piccioni, vous êtes historienne de l'art, chercheuse au Centre Alexandre Coiré, et vous co-dirigez avec l'anthropologue Frédéric Keck le nouveau numéro de la revue Gradiva, consacré au reste humain, mais consacré aux recherches artistiques, à la manière dont les artistes font avec ces restes humains qui existent dans les collections des musées en particulier, qu'il s'agit parfois de restituer ou de garder dans ces collections, mais ne plus montrer aux visiteurs. Qu'est-ce qui a décidé de ce numéro? Qu'est-ce qui a fait que vous avez travaillé main dans la main, un anthropologue, une historienne de l'art, pour penser cette question avec des artistes?
L'idée avec Frédéric Keck de coordonner ce numéro est née autour d'un constat qu'il y avait des artistes qui travaillaient sur le reste humain. Et sur un constat de temporalité, c'est-à-dire que la loi récente qui a été publiée en France en décembre 2025 sur la restitution des restes humains permet de faciliter les restitutions de ces collections, qu'aujourd'hui on appelle les collections sensibles, mais selon des conditions très complexes et souvent la recherche de provenance qui est menée sur ces collections prend des temps très longs et parfois n'aboutit pas. Donc il y a un problème majeur de savoir qu'est-ce qu'on peut faire de ces millions, parce qu'on parle des millions des restes humains, donc des fantômes aussi, on peut les définir comme ça, qui sont donc dans les collections des muséums d'histoire naturelle en Europe, mais aussi aux États-Unis. Donc rien que pour la France, je donne quelques pour se rendre compte de la quantité,
quelques repères.
Quantitatif, le Musée national d'histoire naturelle, donc les collections sont aujourd'hui conservées dans les réserves du Musée de l'Homme, conserve à peu 1000 squelettes et près de 18 000 crânes. Et je précise qu'il y a seulement une partie assez petite de ces collections proviennent des colonies, des actions coloniales françaises. Donc la question c'est quoi faire de ces collections, de cette matérialité encombrante qui n'est pas montrée, parfois partiellement montrée.
Qui a pu l'être auparavant.
Qui a pu l'être auparavant, bien sûr, il y a une histoire qui est très longue, du fait de montrer ou pas des restes humains. Donc je ne m'attarderai pas ici sur la question de Sarah Bartman, la Vénus connue sous le nom de Vénus Hottentote. Et donc la question c'était vraiment sur une temporalité plus courte, donc comment les artistes, est-ce que les artistes peuvent prendre à charge ces collections et pour en faire une réparation ou en tout cas pour nous donner une nouvelle perspective. Ce qu'on avait appelé donc cette éthique relationnelle qui avait été mise en place dans les rapports de Félix Tsar et Bénédicte Savoie qui avait été donc, suite à un discours du président Emmanuel Macron sur la restitution des biens culturels africain. Et donc les artistes finalement peuvent prendre en charge donc ces collections et pour donner peut-être une réponse qui bien sûr n'est pas équivalente à la recherche des provenances et au processus législatif de restitution mais qui peuvent en quelque sorte s'inscrire dans une temporalité plus courte. Donc nous avons décidé de travailler sur ça.
Alors, le numéro est construit avec des articles d'analyse, un portfolio d'artistes qui est aussi un intellectuel, Mathieu Cléhébé-Abonnac, et puis des entretiens avec six artistes ou collectifs qui vous expliquent à vous, à Frédéric Keck ou à d'autres auteurs. Ce qu'ils font avec ces restes humains. On trouve par exemple Samy Balogi, pour citer un artiste contemporain français, mais aussi le collectif syrien Abou Nadara, par exemple.
Oui, alors Sami Balogi a travaillé principalement sur les collections du musée African Museum de Tervuren et aussi sur les collections
à Bruxelles,
du musée de Kebrali. C'est un travail sur des crânes qui a photographié, donc c'est un photographe, sur des crânes qui ont été collectés pendant la colonisation du Congo. Et il fait un travail vraiment sur la subjectivité, sur les côtés subjectifs et objectifs de la photographie. On a effectivement interviewé aussi les collectifs d'artistes syriens à Bounadara qui travaillent donc sur cette figure de soit appelée comme ça, passée dans l'histoire comme les Syriens fanatiques, dont les squelettes est conservé donc effectivement dans les réserves du musée de l'homme. Nous avons aussi donné la parole à Karim Kall qui donne la couverture de numéro. Karim Kall, donc peut-être c'est un exemple assez parlant vu qu'on peut pas voir dans ces contextes. C'est un artiste, un photographe franco-algérien qui a travaillé sur... il fait des ré-photographies, c'est-à-dire il photographie des clichés photographiques qui sont conservés et qui ne sont pas visibles sous les sites du musée de Kebrali pour la question de montrer ce qui est montrable ou pas. Donc il a photographié dans les archives ces photographies qui ont été posées sur une source lumineuse très puissante. Il a zoomé sur ces crânes. Donc, et ce qu'on voit de ces crânes, ce sont maintenant des paysages lunaires ou des images abstraites. Il parle lui-même d'une évocation poétique de ces crânes, donc une manière de se rapacifier avec la violence coloniale et qui est inscrite dans ces collections, qui sont des collections donc algériennes et qui ont été importées dans un contexte colonial en France.
Autre artiste, Delphine Zigoni.
Delphine Zigoni, alors c'est une dessinatrice naturaliste du 21e siècle. Delphine, c'est son travail donc de dessiner dans les collections du muséum en France. C'est elle qui a photographié, qu'elle a dessiné, pardonnez-moi, les têtes maoris qui ont été restituées suite à l'action du maire de Rouen en 2007. Et lorsque la restitution a eu lieu, les maoris ont demandé de ne pas faire circuler dans la presse des photographies, car la photographie était un acte mécanique trop violent, et de faire appel donc à une dessinatrice. Donc c'est Delphine qui a dessiné les têtes maoris qu'on a vues dans la presse à l'époque. Et elle continue son travail de dessinatrice, notamment par exemple sur un projet au Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse. Ils ont collection de crânes collectés à Madagascar. Et dans un contexte de volonté de mettre à ligne ces collections pour favoriser un processus de restitution, de reconnaissance, ils ont fait appel à Delphine pour dessiner ces crânes et non pas publier les photographies de ces crânes. Donc les dessins comme un acte un peu universalisant, universaliste, de rapacification encore une fois.
Une autre manière de procéder, c'est celle de Rosângela Reynaud, par exemple.
Oui, alors Rosângela, elle est une artiste brésilienne très connue, qui a été appelée au musée de Las Palmas, aux Canaries, et qui a donc à la fois fait une installation sur des moulages corporels qui étaient des copies des moulages qui sont au musée de l'Homme, en essayant de réindividualiser ces individus qui avaient été rendus anonymes, pardonnez-moi, par cette procédure du moulage, et aussi un travail plus successif de imprimer les photographies de ces moulages sur un papier marbré pour essayer de donner une sépulture digne, parce que les papiers marbrés rappellent un peu un tombeau à marbre pour donner à nouveau une approche plus singulière à chaque moulage.
Voilà, tout ça et d'autres choses encore dont on n'a pas eu le temps de parler dans ce dernier numéro, le numéro 39 de la revue Gradiva.
Qu'on présente.
Oui.
Mardi.
Au Quai Branly.
À la salle de lecture, mardi prochain, les 16 septembre.
On met l'information sur la page de la suite dans les idées. Une revue très, très, très richement illustrée. Il faut absolument lire la version papier de Gradiva, numéro 39. On trouve la référence sur la page de l'émission. C'était la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau avec Aurélie Marsay, à la technique aujourd'hui Minetta Diawara, à la réalisation Camille Mathy.